franceinter.fr.
Et c'est l'heure de la revue de presse de Lionel Thompson. Bonjour Lionel.
Bonjour. C'est l'attentat de Barcelone qui fait évidemment l'essentiel des unes de la presse française ce matin. Terreur sur les Ramblas, titre Libération. Pour le Figaro, plus sobre, l'Espagne est frappée à son tour par l'État islamique, à son tour, c'est-à-dire après la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suède ou encore l'Angleterre. Le Parisien note, lui, que ce sont les touristes qui sont à nouveau la cible du terrorisme, comme ce fut effectivement souvent le cas dans ces récents attentats. Les Échos évoquent une ville de Barcelone sous le choc, alors que l'Humanité mentionne une cité catalane ensanglantée par une attaque terroriste. La presse régionale consacre également ses gros titres à cet attentat. C'est l'horreur à Barcelone pour la Provence et Ouest-France, terreur à Barcelone pour le Midi Libre ou encore Barcelone frappée en plein cœur pour l'Ardennais. Dans les éditoriaux consacrés à cet attentat, un certain fatalisme le dispute aux appels à la résistance face au terrorisme. Le fatalisme d'abord, dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet s'interroge, cela s'arrêtera-t-il un jour? Avant de répondre, mieux vaut le dire sans embâge, pas avant longtemps. C'est un terrorisme low cost, mais qui fait terriblement mal. Comme un cauchemar sans fin, l'histoire se répète, écrit de son côté Stéphane Albouy dans Le Parisien, le quotidien parisien qui, comme beaucoup d'autres, a recueilli les témoignages de touristes français qui ont assisté à ces scènes d'horreur hier sur les Ramblas. Témoignages qui évoquent des personnes projetées en l'air, des enfants allongés. Un de ces témoins explique avoir vu des gens littéralement arracher leurs enfants des poussettes et les prendre à bras-le-corps pour se sauver. Pour Patrick Saint-Paul dans Le Figaro, le traumatisme est d'autant plus fort que ces attaques sont presque imparables. Et pourtant, il ne faut pas céder, rappellent aussi les éditorialistes, renvoyant pour certains au passé de résistance pendant la guerre civile espagnole de la ville de Barcelone. No pasarán, ils ne passeront pas. Jamais depuis la guerre civile, ce cri de ralliement des républicains espagnols n'a été aussi prégnant dans l'esprit des Barcelonais, écrit ainsi Jean-Michel Servant dans le Midi Libre. No pasarán, c'est aussi le titre de l'éditorial de Laurent Geoffrin dans Libération. Le cœur saigne, et pourtant, comme l'ont immédiatement proclamé les autorités espagnoles, la détermination est intacte, écrit-il. Et il trouve des raisons d'espérer, malgré l'horreur. Les populations civiles régulièrement visées par les tueurs refusent de modifier leurs habitudes sous la pression terroriste, estime-t-il. Comme en témoigne la foule nombreuse qui déambulait hier sur les Ramblas. L'espoir nourri par les stratèges terroristes de voir un jour les rapports entre musulmans et non-musulmans se dégrader sérieusement a été déçu pour l'essentiel. Et Laurent Geoffrin conclut, malgré le sang, malgré les morts, malgré la tragédie répétitive qui ensanglante le continent, l'imbécile et barbare stratégie des assassins se heurte à la résilience des démocraties. Plusieurs aspects de cet attentat attirent plus particulièrement l'attention de vos journaux. La cible d'abord, Barcelone et les Ramblas. Dans Le Parisien, un professionnel du tourisme rappelle que c'est le cœur de la ville, avec ses terrasses, ses fleuristes, ses peintres, ses musiciens de rue, ses vendeurs d'éventails et de maillots de foot. Les Ramblas, c'est presque aussi mythique que les Champs-Élysées. À Barcelone, c'est le symbole de la fête, explique-t-il. Pour le Figaro, qui rappelle que 10 millions de touristes visitent la cité catalane chaque année, c'est aussi une ville symbole de la fête et du soleil en Europe. Et dans ce même journal, Patrick Saint-Paul rappelle, lui, que les Ramblas, la célèbre avenue visée hier, tire son nom de l'arabe Ramol, le sable. Car jusqu'à la Reconquista, la capitale catalane faisait partie d'Al-Andalus, cette Espagne qui fut arabe durant plusieurs siècles et qui occupe une place singulière dans la propagande djihadiste, ajoute l'éditorialiste du Figaro. Mais Barcelone, c'est aussi un foyer de la mouvance djihadiste en Espagne, explique un correspondant toujours dans Le Figaro. C'est là que l'on compte le plus de démantèlement de réseaux, avec souvent des protagonistes d'origine marocaine, indique l'article. Pourtant, depuis les attentats de 2004 dans des trains à Madrid, parmi les plus terribles commis en Europe, 191 morts, l'Espagne mène un combat anti-djihadiste jusqu'alors efficace, note de son côté le correspondant à Madrid de Libération, qui détaille les nombreuses arrestations et condamnations auxquelles ont procédé les autorités espagnoles ces dernières années, la collaboration efficace de ces autorités avec les services marocains, et qui précise que l'Espagne a été moins touchée que d'autres pays européens, notamment que la France, par les départs vers l'Irak ou la Syrie, 150 départs seulement recensés, et moins encore de retours pour le moment. Enfin, plusieurs journaux reviennent également sur le mode opératoire de cet attentat. Une voiture bélier, comme à Nice, Berlin, Stockholm ou Londres, décrite par Libération comme une arme de destruction massive, évoquée dès 2014 par les groupes djihadistes, notamment par un responsable d'Al-Qaïda qui appelait à les utiliser, ces voitures, comme une tondeuse à gazon, comme une forme de poésie macabre de très mauvais goût. Libération qui note que la multiplicité des cibles rend ce mode opératoire imparable et qu'il a fait école, citant le militant d'extrême droite américain qui a tué une femme en fonçant sur des manifestants à Charlottesville, ou même en France, l'homme qui a tué une adolescente et blessé 13 personnes en percutant la terrasse d'une pizzeria. Même si ce dernier ne semble pas avoir eu de motivation terroriste, il s'est livré à une étonnante imitation de gestes terroristes, considère un psychiatre interrogé par Le Quotidien.
Dans la presse également ce matin, Lionel Thompson, d'autres sujets qui font écho à l'attentat de Barcelone.
Par exemple dans Le Monde, oui, daté d'aujourd'hui, qui est paru évidemment trop tôt hier après-midi pour pouvoir évoquer l'attentat de Barcelone, un éditorial sur la crainte d'une guerre sans fin au Sahel. Le Sahel qui a aussi été frappé ces derniers jours avec l'attentat au Burkina, qui est aussi un des théâtres de la lutte engagée contre les mouvements djihadistes. Et Le Monde se montre pessimiste. Le déploiement de 11 000 casques bleus au Mali, les éliminations ciblées menées par l'armée française, les opérations conjointes avec les militaires de la région, rien n'y fait, note Le Quotidien du soir, qui craint que l'opération militaire française Barkhane dans le Sahel ne s'enlise et qui ajoute que la réponse militaire est très insuffisante face à des groupes qui jouent des frustrations économiques ou communautaires auxquelles aucune solution n'est apportée. Entre le terrorisme djihadiste et les militants d'extrême droite américains, il n'y a pas de lien évident à faire, si ce n'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le mode opératoire qui a vu l'un de ses militants foncer avec sa voiture sur une manifestation antiraciste. S'il y a un lointain rapport quand même, il est dans le fait que ces suprémacistes blancs américains semblent considérer comme de plus en plus légitime le recours à la violence. Libération publie ce matin un très long et très intéressant témoignage d'une prof de l'université de Charlottesville qui explique l'ambiance extrêmement tendue qui a régné dans la ville avant et après le drame et la terreur qu'ont fait régner les militants d'extrême droite, pour beaucoup armés jusqu'aux dents. Elle rappelle aussi que les monuments de Charlottesville à la gloire des généraux sudistes qui étaient au cœur des affrontements ne datent pas de la guerre de sécession, mais des années 20, les années de ségrégation. L'Humanité et Le Parisien reviennent aussi ce matin sur cette guerre des statues aux États-Unis et en pied de l'article du Parisien, une information surprenante. Le maire de New York va faire retirer une plaque sur un trottoir de Broadway. Une plaque non pas en hommage à un général confédéré, mais en hommage au maréchal Pétain, installé en 1931, après la Première Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale et la collaboration. Elle n'a jamais bougé depuis.
Merci, c'était la revue de presse de Lionel Thompson.